C'est aujourd'hui les équipiers, les membres des équipes Notre-Dame se rassemblent. C'est la journée de secteur. C'est tous ceux qui, enfin, au moins une part de ceux qui sont membres de ce mouvement d'église, du département, du diocèse, qui passent la journée ensemble et qui commencent par la célébration de la messe ici, dans votre paroisse. Pour nous, nous fêtons un anniversaire très important. Il y a 100 ans, en mars 1923, le père Henri Caffarel, notre fondateur, faisait la rencontre du Christ. C'était pour lui une grâce d'oraison et la découverte de sa vocation. Il est né en 1903 à Lyon, à 20 ans. Il fait cette expérience fondatrice. Il ne la racontera que 50 ans après, à l'âge de 70 ans. En 1930, il est ordonné prêtre à Paris. En 1939, des couples chrétiens viennent le solliciter pour lui demander « Père, nous sommes appelés à la sainteté, mais nous sommes mariés, comment faire ?» Et il leur a répondu « Je ne sais pas. » Mais nous pouvons travailler et réfléchir et demander les lumières du Seigneur pour savoir comment se sanctifier dans le mariage. En 1947, le 8 décembre 1947, on a célébré cela à Châtillon, il y a 75 ans, il donnait aux équipiers la charte des équipes Notre-Dame, qui explique la pédagogie de ce mouvement, et qui explique aussi les exigences de vie que se proposent les équipiers. En 1966, il reçoit un héritage, une maison dans l'Oise, à Troussure, qui devient une maison de prière. En 1973, le mouvement étant déjà maintenant bien fortifié, et puis le père Caffarel est troublé par une mission qui, pour les équipiers. En 1968, vous savez, le pape Pie XII avait publié « Humanae Vitae » au sujet de la contraception. Et le père Henri Caffarel avait sondé les équipiers pour savoir ce qu'ils vivaient dans leur intimité à ce sujet-là, de la régulation de naissance. Il s'est rendu compte que bien peu suivaient l'enseignement de l'Église. Et il a été désemparé, il n'a pas su faire face à cela, il n'a pas trouvé les mots, les moyens pour encourager chacun à découvrir cet évangile de la vie que le pape Paul VI avait proclamé. Alors c'est à ce moment-là qu'il se retire, il explique pourquoi il se retire, c'est là qu'il raconte cette grâce de 1923. Voici ce qu'il disait. À 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, est devenu quelqu'un pour moi. Oh, rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Et que désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. Il poursuit. C'est parce que, au mois de mars 1923, il y a exactement 50 ans, donc il y a 50 ans aujourd'hui, 100 ans, un jour, j'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ, de la relation entre le Christ et l'homme, en quoi consiste la vie chrétienne. Cela a été pour moi la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi avant ce mois de mars 1923 et il y a après ce mois de mars 1923. Cela m'a marqué et depuis ce jour, je n'ai qu'un désir. Moi-même, entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir d'amener les autres à cela. Parce que cela a été capital dans ma vie, cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Et donc, il explique pourquoi maintenant il passe la main pour les équipes Notre-Dame et il va se consacrer entièrement aux semaines de prière, à enseigner l'art de prier intérieurement, l'art de l'oraison. Et il mourra dans cette maison de Troussure en 1996. Je vous propose maintenant d'entrer dans le récit d'une autre rencontre décisive, durant laquelle une femme s'est su aimer de Dieu en vérité, infiniment. Et nous allons le faire, l'écouter, la voir, pour nous-mêmes entrer dans cette même rencontre, dans cette même intimité, avec le Christ vivant dans nos vies. Vous le savez, la proclamation de l'Évangile au cours de la messe, ce n'est pas pour nous un exercice de mémoire. Ce n'est pas nous qui, en pensée, nous projetons dans le passé. C'est le passé, c'est l'événement de la rencontre du Christ et de la Samaritaine qui se réalise au milieu de nous, aujourd'hui. C'est le passé qui vient dans le présent, et non le présent qui s'en va dans le passé. Le puits, il est là. La ville de Samarie, elle est là, autour de nous. Les disciples du Seigneur, ils sont là. La Samaritaine, elle est là. C'est chacun d'entre nous. Jésus est là. Dans la Sainte Écriture, les histoires qui commencent autour des puits sont des belles histoires, des grandes histoires d'amour. Rappelez-vous, par exemple, la rencontre que fait le serviteur d'Abraham envoyé chercher une épouse pour Isaac. Il se rend au puits de Nahor, en Chaldée, au pays d'Abraham. À l'heure où viennent les jeunes filles au puits pour puiser. Il demande au Seigneur, « Comment je vais savoir celle que tu as désignée, celle que tu désires que je conduise auprès d'Isaac, auprès d'Abraham ?» Et voici ce qu'il se dit. « La jeune fille à qui je dirai, « Incline ta cruche pour que je boive » et qui répondra, « Bois, et je vais aussi abreuver tes chameaux, que cette jeune fille soit celle que tu destines à Isaac. » Cette jeune fille, c'est Rebecca. Aujourd'hui, le Seigneur cherche à sceller une alliance, mais non pas avec une humanité aussi pure et aussi généreuse que celle de Rebecca, mais avec notre humanité plus abîmée, comme celle de la Samaritaine. Cela ne le rebute pas. Le père Caffarel insistait tant sur la manière d'entrer en prière, sur la considération de celui que nous allons rencontrer. Il rappelait la manière dont le Seigneur avait commandé à Moïse, devant le buisson ardent, d'enlever ses sandales. L'intimité qu'il nous propose, la rencontre qu'il nous propose, ne comporte nulle familiarité. Il nous demandait aussi une très grande détermination de la volonté à vouloir rencontrer le Seigneur, l'adorer, le connaître. Et pour engager notre volonté et tout notre être, rien de mieux que de manifester notre désir, de demander quelque chose d'important. Quand vous dites chérie, en général, après chérie, il y a quelque chose. Quand vous dites papa, quand vous dites maman, après avoir dit papa ou maman, il y a quelque chose. Vous demandez quelque chose. Vous donnez à l'autre de pouvoir vous offrir son amour. N'allons pas à la prière sans désir, sans volonté, sans s'engager dans cette rencontre. Regardez de quelle manière Jésus nous l'enseigne en l'enseignant à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu vois, Samaritaine, c'est toi qui devais demander. C'est toi qui devais désirer, c'est toi qui devais manifester ton désir. Il t'aurait donné l'eau vive. L'eau vive, c'est l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus ne peut jamais refuser. Demandons-le. Vous avez entendu dans la première lecture ce récit des tentations au désert de Massa et Meriba. Nous en avons entendu le récit dans le livre de l'Exode. Mais un autre livre de l'Écriture rapporte ce même fait. C'est le livre des Nombres. Et il ajoute une précision. Moïse est envoyé par le Seigneur se confronter au peuple en lui disant « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons, nous, Moïse et Aaron, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ?» Et le livre des Nombres nous rapporte que Moïse a frappé deux fois le rocher et a fait jaillir de l'eau en abondance. Et qu'ensuite, le Seigneur reproche à Moïse son manque de foi. Et en raison de ce manque de foi, il n'entrera pas en terre promise. Les rabbins nous expliquent que ce manque de foi nous est manifesté par le fait que Moïse soit obligé de s'y reprendre à deux fois pour faire jaillir l'eau. C'est-à-dire que ce rocher, saint Paul nous dit, c'est le Christ. Ce rocher, c'est le Christ. Ce rocher, c'est la parole de Dieu. Et peut-être vous avez trouvé la lecture de l'Évangile très longue et très peu compréhensible. Aride comme un rocher. Et le Seigneur vous dit, frappez. C'est ça. Cet engagement de toute votre volonté, de toute votre intelligence, de toute votre personne, c'est cet acte de foi qui vous fait rencontrer le Seigneur. Frappez. Heureusement, Moïse, même s'il a manqué de foi la première fois, il a continué à frapper. Il nous faut persévérer dans la prière. Il nous faut puiser à ce puits, à cette source qui est la parole de Dieu, dans la prière intérieure. Parfois, ce don de Dieu, cette eau vive, ce don de l'Esprit est insensible. Nous ne le percevons pas, mais il n'en est pas moins vrai. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint, qui s'insère, qui s'insinue en nous, et parfois il le fait sans passer par nos sens, sans que nous puissions le percevoir, tant il est discret. Il faut le demander, cette eau vive, il faut la demander. Elle ne nous est jamais refusée. Le père Caffarel a aussi une expression amusante pour dire ce que c'est qu'entrer dans la prière. Il dit, c'est mettre le pilote automatique. Un jour, il avait été, pour un voyage en avion, invité dans la cabine de pilotage. Et il avait été effrayé de voir le pilote discuter avec lui sans regarder la route, entre guillemets. Et le pilote lui a dit, rassurez-vous, il y a le pilote automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me suis engagé dans cette rencontre avec toute ma personne, avec un vrai acte de foi, si j'ai frappé une fois, deux fois, alors même si je suis distrait, je ne quitte pas le Seigneur. La distraction, je ne la veux pas, c'est indépendant de ma volonté n'a pas changé, je suis toujours en prière. Ah oui, si je me mets à penser, à poursuivre cette pensée, cette imagination débordante qui m'habite, et à changer de direction, avoir une nouvelle volonté quand je me rends compte, alors oui, je peux quitter la prière. Mais si je dis, Seigneur, je suis parti faire mes courses, Seigneur, je suis parti préoccupé par la santé, la mienne, celle de mon conjoint, de mes parents, par le travail de mes enfants, je ne sais. Seigneur, tout cela, je te l'offre, mais je suis resté avec toi, je veux être avec toi, je poursuis avec toi. Il nous faut persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'oraison. Sans tout manger, sans tout boire, si un mot de ce très long évangile me nourrit, me rassasie, me désaltère, j'y reste. Je reviendrai une autre fois, la source ne sera jamais tarie. Poursuivons. En nous arrêtant sur le retour des disciples qui disent au Seigneur, viens manger. Et Jésus excite notre désir, notre intelligence, en nous disant qu'il a une nourriture inconnue. Ma nourriture, dit le Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu. Cela explique pourquoi la grâce de la rencontre du Père Caffarel, l'expérience d'être aimé et d'aimer en retour, la grâce d'oraison, la grâce d'intimité avec le Seigneur est devenue aussi pour lui la grâce de sa vocation. C'est dans la prière que nous connaissons ce que Dieu veut pour nous. Regardez ce que Jésus nous dit. Levez les yeux. Levez les yeux et regardez. Les champs sont déjà dorés pour la moisson. Alors que vous, si vous ne priez pas, dit-il un peu à ses disciples, eh bien, vous vous attendez 4 mois encore. Moi, je la vois déjà. Vous avez vu l'hostilité entre les Samaritains et nous, mais regardez, ils vont me demander de demeurer avec eux. Et le père Caffarel a été ainsi conduit, parce que c'était un homme de prière et d'oraison, à écouter la voix du peuple de Dieu, à écouter ces couples qui sont venus le solliciter pour lui demander comment être saint en étant marié, à écouter ces veuves qui sont venues lui demander comment être saint quand on est veuf ou veuve, à écouter ensuite tous ceux qui lui ont dit « Mais comment faire face à ce monde qui va si mal ?» et en les invitant à intercéder. Il a, parce que c'est un homme de prière, connu la volonté de Dieu et il l'a accomplie. Si nous prenons le temps de rencontrer le Seigneur chaque jour, un petit moment dans sa parole, nous pourrons dire avec les Samaritains « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, toi, monsieur le curé, que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Si cette semaine, vous reprenez cette page d'évangile de la Samaritaine, vous reviendrez voir le Père Henri en disant « Père Henri, tu avais raison, mais maintenant nous le savons parce que nous l'avons rencontré. » Demandons la grâce de devenir des âmes d'oraison, pas des grands mystiques, mais des pauvres qui humblement demandent l'Esprit Saint, demandent l'eau vive pour rencontrer le Christ vivant dans sa parole. Alors ce carême de 2023 sera différent de tous les précédents. Demandons-le, le Père Henri Caffarel le demande avec nous. Amen.